Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Histoire d'en savoir plus avec Madame Françoise Michaud qui, dans une émission antérieure que j'espère vous avez entendue, et autrement, eh bien, vous allez la chercher sur le site de Radio Grand Ciel, sur ces questions autour de l'enfant, le désir d'enfant, l'infertilité, etc. Et aujourd'hui, bonjour Françoise, merci d'être venue à Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, donc, nous allons évoquer les enjeux de ces, disons, de ces pratiques où le médecin intervient pour, pour faire venir l'enfant, ou bien, comment il intervient, comment c'est reçu, et puis, qu'est-ce que cela provoque, à la fois sur le couple lui-même, pour le médecin, qui aide à donner la vie, et puis pour la société, puisque finalement, il y a des tas d'enjeux, là.
Voilà, bonjour. Donc, effectivement, on a l'autre fois parlé plus concrètement comment ces parcours d'infertilité, comment ça avait lieu. Donc, on peut rappeler que c'est des parcours qui sont longs, un vrai parcours du combattant. Et donc, il faut avoir conscience, aussi bien quand on est médecin de ces personnes-là, que quand on est dans l'entourage, quand on connaît des personnes qui passent par là, que c'est quand même une souffrance, c'est un parcours de douleur un peu. On pourrait dire un parcours de deuil. Au départ, le deuil, c'est le deuil de l'enfant qui ne sera pas venu tout seul naturellement. Quelquefois, c'est vécu avec une certaine injustice par rapport à une amie où on va apprendre qu'elle est enceinte comme ça, sans, si facilement, voire même qu'il y aura quelqu'un qui aura confié qu'elle a terminé par une IVG alors que la personne aurait tant souhaité avoir, n'arrive pas à avoir de bébé. Donc, il y a beaucoup de souffrance. Souffrance donc personnelle de la future maman, de la personne qui cherche à devenir maman. Souffrance du couple, où souvent les deux ne sont pas sur le même registre, ne sont pas sur la même intensité de désir d'enfant. Que c'est vécu tellement, il y a tellement de pression, par exemple sur les relations sexuelles, qu'il faut avoir tel jour, telle heure, c'est pesant. Ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin, essayer de dire ou de faire percevoir qu'il ne faut pas oublier de s'aimer dans le couple, de garder une tendresse spontanée malgré tous ces gestes demandés de manière presque autoritaire de la part du personnel soignant.
Et pour l'enfant finalement, parce que
la place
comment
de
ça se passe ? Non, mais comment ça se passe ? Parce que l'enfant, il doit se dire, je suis pas une marchandise quand même.
Après, plus tard.
Oui.
Alors ça, c'est un vrai problème auquel on peut arriver. Pour moi, c'était un des derniers enjeux. C'est la place qui sera faite à cet enfant. À cet enfant qui aura été autant... Il y aura une telle pression sur cet enfant, le désir d'enfant, c'est très beau, mais un excès de désir d'enfant, ça devient très pesant pour lui-même. Sûr. Donc après, est-ce que... Je pense que...
Si l'enfant ne répond pas exactement au désir de ses parents dans sa manière d'être.
Exactement. C'est dur. Je pense que le parcours après de devenir parent... c'est moins simple qu'un enfant qui sera venu
tout seul.
C'est sûrement, il y a aussi la place de l'enfant. Mais je reparle du couple, donc qui continue de s'aimer, qui dialoguer aussi, parce que finalement, dans les propositions qui sont faites, il y a la liberté du couple, il y a des moyens possibles, mais qu'il n'y a pas, c'est le couple qui est libre du tempo qui est donné dans la périodicité des examens, même si la maman n'est pas très jeune, c'est quand même le couple qui est preneur, je trouve. Et puis également de savoir jusqu'où un couple est prêt à aller dans les démarches qui sont proposées. Donc c'est important qu'ils puissent en parler. C'est également, souvent il y a un isolement du couple où il faut au couple, moi c'était un rôle que je me donnais, c'est d'aborder la question avec qui ils en parlent. C'est important, quelquefois s'il y a trop de gens au courant, c'est pas bon, il y a une pression sur les traitements qui sont entrepris le mois en cours, notamment une future grand-mère, etc., qui peut finalement ça peut être négatif. Mais d'avoir quelques personnes pour en parler, c'est important. Donc il faut savoir aborder ce genre de questions. Et effectivement, si on dit qu'il y a une souffrance, il y a plus qu'une souffrance, il y a presque des violences. Si on réfléchit aux traitements qui sont proposés par des traitements qui font mal au ventre, qui font mal au sein pour les mamans. Donc il y a des effets secondaires, des stimulations qui sont importantes, voire même vraiment des complications. Mais sans être sur les complications, les effets secondaires ne sont pas anodins. des violences psychologiques aussi, puisque on fait passer les couples par une succession d'espoirs, qui peuvent être vécus de manière un petit peu excessive. Il faut apprendre à prendre les choses petit à petit. Tout point positif qui arrive, tant mieux, mais il ne faut pas trop vite idéaliser sur l'enfant à la maison trop vite. Et puis, c'est entrecoupé d'échecs, parce qu'effectivement, derrière un espoir, il y a un certain nombre de fois où hop, ça retombe. Et ça, c'est violent, si on en parle avec les personnes qui sont passées par là. Donc là, je parlais de la femme, je parlais du couple, mais il y a également la place du médecin, où on peut réfléchir à sa propre place. Et c'est apprendre à être humble, respectueux du couple, alors qu'il faut avoir conscience qu'on a une intrusion dans l'intimité du couple. On finit par être au courant de beaucoup de choses pour arriver à donner les rendez-vous, parce qu'on est obligé de se voir souvent. Également, la personne, quand il y a des inséminations, moi j'ai vécu, je n'ai pas fait de fécondation in vitro, mais des inséminations, eh bien, c'est le moment de la fécondation, on va dire, c'est en position gynécologique, on va dire que ça a un côté un peu humiliant pour la personne. Il faut penser à être discret, délicat dans ces moments-là, et puis que le corps ne soit pas instrumentalisé, qu'il y ait quand même le mystère de la vie qui continue d'exister.
Oui, en fait, l'homme n'est pas tout puissant quand même.
L'homme n'est pas tout puissant, et je crois que ça, c'est une découverte que l'on peut faire, c'est que toutes ces expériences-là, ça rejoint le sens de la vie, et ça rejoint la non-toute-puissance de l'homme, voilà, et la prise de conscience de nos limites. Voilà, et donc là, on peut arriver après à entrevoir peut-être ce qui se passe pour les demandes de procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, où les limites entre deux femmes, il n'y a pas d'enfant, et une femme seule peut ne pas avoir d'enfant.
Donc oui, alors justement, ça touche les limites. Ces questions-là,
ça touche les limites, voilà.
Les couples homosexuels qui veulent des enfants, et bon, alors les femmes, pas encore, à la limite, elles peuvent avoir une relation de passage, non ?
Enfin, je sais pas. Non, ça peut être choisi. Alors là, on peut parler autrement. Oui, mais j'aimerais revenir sur ces enjeux. Si on reste dans ce qui existe dans la loi actuellement, ces enjeux qui sont qu'il faut préparer au fait qu'on n'est pas tout puissant et que, ok, il pourrait y avoir des réussites, heureusement, mais prévenir que les pourcentages ne sont pas si grands que ça, hein, de réussite, et que peut-être laisser entrevoir que réussir sa vie, c'est plutôt la capacité à intégrer l'échec et pouvoir rebondir. Et puis partir de là, c'est ouvrir la porte pour que finalement, peut-être, la réussite va venir, un peu comme un cadeau. C'était mon point de vue. Mais d'accord. Reparlons effectivement alors du souhait. Donc là, on rentre dans les nouvelles projets de loi bien avancés de bioéthique sur la procréation médicalement assistée pour tout le monde. Effectivement, la nature fait qu'il n'y a pas spontanément, c'est les limites, d'enfants possibles entre deux femmes. Donc la possibilité... Il y a des visions autonomistes de certaines personnes, effectivement, qui pensent qu'un couple de femmes qui s'aiment a envie d'avoir une fécondité et donc d'accueillir la vie au sein de son couple. Et c'est dans un désir d'enfant, on va dire tout à fait légitime, souvent de personnes qui auront beaucoup réfléchi à la question. Elles peuvent penser même qu'elles auront plus réfléchi que des couples hétérosexuels qui ont un enfant par hasard, quoi. Alors effectivement, il y a la formule de se faire aider d'un ami du couple.
D'un ami de passage.
D'un ami de passage. Mais je pense que la demande, elle est autre. La demande, elle est autre. Elle est une demande vraiment que ce soit l'enfant du couple. Puisque par exemple, là j'ai vu, actuellement, il y a des demandes pour que par exemple, il y ait une personne. Alors là, en passant non pas par insémination, mais par fécondation in vitro. Il y en a une qui donne l'ovule. Donc, il y a un embryon qui est fait in vitro et l'autre reçoit l'embryon. Et donc, dans les deux cas, il y a un lien biologique avec l'enfant.
Que dit la médecine de ça ? Parce que quand même...
Pour la médecine, il n'y a aucun problème. Pour la médecine, ce n'est pas plus compliqué que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. C'est plus qu'est-ce que ça veut dire derrière. Et donc là...
Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire derrière et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'enfant ?
Qu'est-ce que ça fait pour l'enfant ? Mais si on parle sur le... Justement, on peut voir les deux. Si on se place sur un côté...
Oui, on peut avoir des enfants qui ont deux mamans. Ça ne les gêne pas du tout, d'ailleurs, effectivement. Quand ils ont 10-12 ans, ça
les gêne. Mais au niveau technique médical, au point de vue insémination ou au point de vue fécondation in vitro, que l'on remplace... À partir du moment où...
On sait faire pour un couple, on sait faire pour une femme.
Exactement, voilà. Puisqu'en fait, et, alors là, moi, ça m'aurait posé un problème parce que c'est très chronophage de s'occuper d'infertilité et je suis contente de ne plus exercer la médecine parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait face à un couple de femmes qui m'aurait demandé une insémination. Est-ce que oui. j'aurais refusé ? Mon rôle a souvent été d'accepter toutes les demandes, mais pas de répondre à toutes les demandes. Voilà. Mais ça m'arrange bien de ne plus avoir à être là, en tout cas, si la loi passe. Bon. Mais si on réfléchit, puisqu'on prend du côté d'un homme du sperme, et qu'on prend chez la femme, que l'on va mettre chez une femme, dans le ventre d'une femme pour une insémination, que ce soit d'un homme extérieur au couple ou que ce soit au sein d'un couple hétérosexuel, médicalement, ça ne change rien.
C'est la même chose.
On n'est plus dans le. On est plus, bon, le secret, c'est pareil. Alors, je peux revenir là-dessus, c'est qu'on avait en France. Les années, j'aurais un petit peu de mal à le dire, mais c'était surtout le professeur David. On a mis en place tout un système de prise en charge de l'infertilité avec donneur, qui voulait reproduire le couple hétérosexuel avec le secret possible, et que c'était forcément des personnes qui étaient déjà parents qui donnaient une gamète, et que l'on mettait au sein d'un couple, d'un homme et d'une femme. Donc ça cherchait à reproduire la nature. Bon, là-dessus, je peux revenir. On a eu, au mois de juin, organisée par la CI, une rencontre très intéressante sur la bioéthique, une réflexion de deux personnes, dont l'une, c'était Madame Cato, qui est revenue sur l'histoire de la stérilité et qui nous a dit que l'histoire de la stérilité, en fait, c'est venu de manière sociétale, entre les deux guerres, qu'on a reconnu ce que c'était que la stérilité, parce qu'on avait besoin de repeupler la France après la guerre de 14.
Voilà, donc là, c'était encore autre chose. La dimension sociétale, non, mais c'est très important aussi, cette dimension.
Complètement. Et qu'aujourd'hui, actuellement, pour que la stérilité, il faut qu'elle soit médicalement attestée, pour qu'elle soit prise en charge normalement. Or, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 15 à 20% des couples hétérosexuels qui ont recours au traitement de la stérilité, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de pathologie derrière, et que c'est souvent parce qu'il y a l'âge de la maman qui fait ça, et qu'elle, on considère que c'est pathologique, entre guillemets. Bon, mais finalement, la stérilité, est-ce qu'elle est pathologique ? Ce que nous disait Madame Cato, c'est que ce n'est pas un problème médical, puisque les personnes infertiles, elles, qui ne veulent pas d'enfants, elles ont la même espérance de vie que celles
qui ont... Oui, donc il n'y a pas de maladie, en effet.
Il n'y a pas de maladie. Que le problème de santé, il naît du désir d'enfant. Si elles ne veulent pas d'enfants, elles ne sont pas malades.
Oui.
Donc pour elle, elle avançait que finalement, cette grande, moi ça m'a beaucoup interrogée parce que pour moi j'avais la notion que jusqu'à présent, en s'occupant de couples hétérosexuels, on s'occupait de stérilité vraiment pathologique. Donc j'y voyais une certaine noblesse et je voyais arriver la prise en charge des stérilités homosexuelles plus que du sociétal et donc plutôt à rejeter pour des tas de raisons. Je trouve que ça m'a interpellée ce qu'elle nous a dit, parce qu'effectivement, les deux sont sociétales, finalement.
Oui.
Enfin, dans les deux, il y a du sociétal. Enfin, dans l'une, elle est complètement sociétale. Dans l'autre, il y a aussi du sociétal. Donc, il ne faut peut-être pas aller trop vite dans nos jugements. Bon, il en sort que, quand même, au-delà de la médecine, dans un couple homosexuel, qui a donc peut-être un fort désir d'enfant, qui sera bien accueilli, etc., quoi que franc ce couple, il manquera l'altérité sexuelle au sein du couple parental. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... Alors, elles peuvent toujours dire qu'il y a des hommes qui sont proches, qui transitent autour d'elles, mais dans la cellule familiale, il n'y aura pas d'altérité sexuelle. Et puis, ma réflexion que j'ai pu avoir depuis un an, où j'ai assisté à pas mal de conférences, de débats là-dessus, c'est quand, si on parle alors des femmes seules, il n'y a même plus la notion de couple. Il n'y a non seulement pas l'altérité sexuelle, mais il n'y a même pas la notion de couple parental. C'est une personne seule qui élève une femme seule, un enfant seul. Alors on peut dire que bon, il y a le problème des enfants, des enfants orphelins ou des enfants divorcés. N'empêche que dans l'enfant orphelin, le père a existé, ou dans les enfants divorcés, le père existe et il peut rencontrer son enfant. Ça rejoint le problème des gens qui sont nés de pères inconnus, et c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est souvent une très grande souffrance. Donc là, ça a existé, c'est vrai. Là, c'est le créer toute pièce. Et donc, ça peut interpeller, même si on peut dénier que ces femmes qui veulent des enfants et qui vivent entre deux femmes ou qui n'ont pas pu
établir... Ou qui veulent un enfant seul aussi.
Ou qui veulent un enfant seul. Il y a une souffrance derrière. On peut écouter leur souffrance. Mais de là, toute souffrance n'est pas bonne à être soulagée. Et je pense que notre rôle en tant que chrétien, c'est de les accompagner, de peut-être revenir à ce qu'on pouvait dire, c'est que la fécondité, elle peut être autre que dans la survenue d'enfants.
Non, parce que là, quand même, l'enfant, la femme seule qui dit « bon, moi, je veux un enfant », bon, après tout, pourquoi pas, c'est vrai, mais... et puis après, on va avoir aussi les couples homosexuels masculins qui vont dire « nous aussi, on veut des enfants », et alors à ce moment-là, on va demander à une femme d'être mère porteuse. Et là,
alors, la GPA...
Là, c'est encore autre chose. Enfin, je trouve que là, vraiment, on réduit la femme à être... enfin, bon, voilà, c'est une espèce de... une forme nouvelle d'esclavage, selon moi, mais... je me trompe peut-être.
Alors complètement. Donc là aussi, j'ai un petit peu réfléchi sur la GPA. La GPA, lorsque, de manière simple, actuellement, en droit français, la mère est celle qui accouche. Bon, problème, c'est qu'actuellement, il y a des personnes qui vont à l'étranger et donc le problème de ces enfants qui sont nés, c'est un autre problème. Et dans le droit français, pour l'instant, la mère est celle qui accouche. Alors on peut se poser la question, s'il y avait la GPA sur ces mères porteuses, qu'est-ce qui adviendra si elle veut garder son enfant ? Qu'est-ce qui adviendra si finalement l'enfant porte un handicap ? Qui est-ce qui voudra le prendre en charge ? Ou également, quel lien mère-enfant, mère-fœtus va y avoir ? Donc est-ce que la mère va être dans un rejet de cette grossesse puisqu'elle sait qu'après elle ne va pas garder ce bébé ou trop s'y attacher ? Enfin, ça pose vraiment question. Et effectivement, le risque que vous souleviez, c'est le risque de marchandisation, voire d'un certain esclavage des temps modernes. Alors, à travers le monde, il y a des pays, de mémoire, je pense qu'aux États-Unis, ou du moins certains États, sans doute pas tous, au Canada, ça existe. Récemment, ça existait beaucoup en Inde, où il y avait une marchandisation, un esclavage moderne, et l'Inde vient de l'interdire pour les étrangers. Je trouve ça plutôt positif.
Il y a oui, plus... Je connais parce un couple où deux compagnons ont adopté...
Adopté conçu.
On fait concevoir par une mère porteuse... un enfant, il se trouve que ce sont des jumeaux.
Donc ils ont chacun un. Oui, mais il est issu que des gamètes, qu'il y en a qu'un qui est le père.
Ah non, c'était une mère porteuse de... Bon, ben voilà, elle a été fécondée par un père X, qui est ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Et puis, ils ont acheté. Oui, quelque part, ils ont acheté.
Oui, parce que oui.
Mais les services d'une mère porteuse. Et alors, j'avoue que là, ça m'a interrogée. Mais d'un autre côté, bon, les enfants vont bien. Ils s'en occupent beaucoup. Ils les aiment. Et quelquefois, là, je m'abstiens de juger quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge.
Oui, alors, c'est pas parce que quelque chose existe, c'est pas parce qu'il y a une transgression de la loi que la loi doit forcément avancer.
Voilà, oui, tout à fait.
Et donc, devant chaque cas particulier, il peut y avoir beaucoup d'émotions et qu'on peut être, ému, ouvert à ce que peut vivre un couple. C'est pas pour ça que la loi doit forcément aller dans ce sens-là.
Je pense en effet que la loi ne doit pas aller dans ce sens-là.
Voilà. J'avais écouté à la Cato Mgr Bourdaine, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, sur la morale fondamentale, et il m'avait fait réfléchir sur ces enjeux. Mais je pense que dans les GPA, il pourrait exister, c'est qu'on prenne les gamètes d'un futur papa et que ce soit génétiquement leur fille, leur enfant quand même.
Oui.
Ça c'est médicalement la médecine.
C'est médicalement possible.
Médicalement, ça pose pas de problème. Hein, voilà. Mais dans les projets qu'on avait pu voir, j'avais vu une fois un article dans le journal La Croix. Il y a des recherches pour les femmes sans utérus de faire des greffes d'utérus. Et spontanément, c'était presque séduisant de se dire, à ce moment-là, si on a une greffe d'utérus, parce que c'est dramatique, ces femmes qui n'ont pas d'utérus, qui peuvent être des femmes jeunes, c'est pas qu'une histoire de GPA, c'est pas que pour des couples homosexuels masculins. Ça peut être aussi pour des femmes qui, pour des raisons X, soit de malformation, soit suite à des maladies, ou une précédente grossesse qui s'est mal terminée, etc., qui n'ont pas d'utérus. Que penser d'une greffe d'utérus ? Donc j'ai réfléchi à la question et ce qui m'a une personne qui m'a aidé à réfléchir, c'est Madame Cato toujours qui était venue en juin pour nous dire que elle le disait publiquement en dehors de l'Église, mais réfléchissait beaucoup à toutes les violences au corps et pour elle c'était une violence au corps énorme d'imposer à une femme, enfin ou de proposer à une femme une greffe qui serait la première greffe jetable puisqu'elle porterait cet utérus le temps d'avoir des enfants, mais qui dit greffe dit traitement anti-rejet, dit c'est une intervention lourde,
oui,
etc.
Donc c'est quelque chose de
très lourde. Et elle trouvait quelque chose de monstrueux de d'oser penser à une telle technique alors que les GPA sont beaucoup moins violents on va dire, sur le point de vue physique, psychologique, enfin, mais la porter un enfant d'un autre, c'est pas, techniquement, c'est pas compliqué. Le problème, c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière.
Oui.
Donc, ces grèves d'utérus, c'est peut-être pas la bonne solution, même si on avait pu penser que c'était un moyen de pallier aux personnes qui n'ont pas d'utérus, quoi. Et de toute manière, ça n'existe pas encore. Hein, c'est pas encore.
Alors, de toute façon, c'est vrai que ça renvoie quand même à des questions de... Et pour la société, qu'est-ce que ça veut dire au niveau enfin, de la société? Parce que ce sont aussi, tout ça, ce sont des systèmes très coûteux.
Alors, effectivement, c'est très coûteux. C'est donc, on peut se poser la question. Pour l'instant, c'est gratuit. C'est pris en charge jusqu'à 43 ans. Si on est vraiment que dans une infertilité sociétale, qui va payer? Et comme ça coûte très cher si on veut être dans ce moyen autre que demander à un ami de passage de venir faire un enfant, quand on prend la voie plus noble, eh bien forcément il y a des examens, il y a des surveillances, il y a des traitements. Donc qui payera? Ça c'est un vrai problème. Il y a le coût, il y a également le coût, j'allais dire, en temps. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, on n'a pas été formé, on est quand même plus formé pour soigner les gens sur une, entre guillemets, vraie pathologie.
Oui, puisque là, en fait, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait une pathologie.
On n'est pas dans une pathologie. Alors, ça rejoint quand même le problème qu'on venait d'aborder tout à l'heure. Est-ce que les autres la prise en charge des stérilités des couples hétérosexuels, est-ce qu'il y a toujours de la pathologie? Non. Donc, on se retrouve
oui,
avec le même problème.
On se rejoint, oui.
D'ailleurs, la société, je fais un aparté, actuellement, les étrangers qui vivent en France, tant qu'ils sont qu'avec seulement l'aide médicale gratuite, l'AME, ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge de la stérilité. Il faut qu'ils soient passés au stade où ils ont une carte de couverture médicale universelle, de CMU, là pour bénéficier de la stérilité. Enfin, pour dire que ce côté coût, quelque chose qui intervient aussi.
Alors après, il y a le coût psychologique pour l'enfant, le coût psychologique pour le couple lui-même, le couple,
oui.
Enfin, parce que finalement, et lorsque le couple se défait.
Alors effectivement, là, le couple se défait, c'est comme dans tout
dans
couple.
Dans tous les
effectivement,
autres.
On peut se poser la question.
Et puis pour l'enfant qui.
Alors pour l'enfant, et j'ai envie. Alors il y a la place de l'enfant, et effectivement, ça rejoint une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de droit à l'enfant.
Oui, c'est
d'abord le droit
ça
des enfants.
Ça pose quand même une question. Ça.
Parce qu'effectivement, il y a des couples qui sont dans un parcours et qui sont aussi bien... J'ai droit à un enfant, aussi bien que ce soit homo ou hétérosexuel, qui ont cette volonté de toute-puissance, alors que ça n'est pas. Et au-delà de l'enfant, au-delà du couple, ce sont des enjeux pour la société. Et ça nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre état de vie. C'est-à-dire, finalement, quel type de société voulons-nous? Il y a beaucoup de possibles. La médecine, effectivement, vous me posiez la question, est-ce que la médecine peut? Oui, la médecine peut beaucoup de choses, mais tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Et là-dessus, en tant que catholique, on est interrogé. Et on y est interrogé si, justement, notre maison commune, qu'est-ce qu'on veut en faire? Alors là, on est interrogé par rapport aux nouvelles lois qui vont avoir lieu, avec un certain rôle de fraternité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on entend des discours très opposés sur ces lois qui vont avoir lieu. Et donc, dans la société, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour s'entendre alors qu'on pense des choses complètement différentes? Et c'est sûrement pas en se mettant, en s'arc-boutant sur des idées très fermes que l'on va avancer. Il faut pouvoir... Faut pas diaboliser, mais il faut chercher à discuter. Voilà, il faut entendre le désir de chacun, tout en sachant que tout désir n'a pas vocation à être satisfait.
Oui, et puis enfin cette idée. Enfin, j'avoue que l'enfant c'est une personne, et ce n'est pas parce que là ça ressemble quand même de plus en plus à un enfant marchandise. Enfin quoi, quelque chose. C'est une personne en soi qui existe à côté de soi et non pas. Quelque chose sur quoi on a une certaine main, en fait, un certain pouvoir.
Oui, tout à fait. C'est un enfant en devenir. Alors après, on n'a pas abordé le problème de l'adoption, où l'adoption, c'est un enfant qui existe et qui n'a pas de parents et à qui on va proposer d'avoir des parents, ou à un couple à qui on va proposer d'avoir un enfant. Mais on leur propose d'être parent d'un enfant qui existe.
D'être parent d'un enfant qui existe, et puis voilà. Pour un enfant, de trouver des parents... qu'il aimerait peut-être avoir.
Alors, en sachant que là, pour le coup, il y a des enquêtes et qui sont vécues souvent comme une injustice, où on cherche à savoir un petit peu la valeur de ce couple parental. Et que les enfants... souvent, il y a eu des... Moi, j'ai entendu des personnes qui disent « Ceux qui sont parents comme ça, ils sont parents. Et puis, même s'ils sont des mauvais parents, ils sont parents. » Ce qu'il y a, c'est que les services sociaux qui ont charge des enfants abandonnés ne souhaitent pas que ces enfants revivent une deuxième période difficile, d'où toutes ces enquêtes psychologiques, économiques, etc., pour voir s'ils sont aptes à être parents. Mais si on se place sur l'Église, donc il y a des rôles, il y a des prises de position du magistère, donc de l'Église, magistère, c'est pas forcément toute l'Église, c'est le pape et les évêques. Notamment, il y a eu récemment la conférence des évêques de France qui a fait paraître un petit livre qui coûte 5 euros, qui mérite d'être acheté, qui s'en réfère surtout à la dignité. Vous parliez de la place de l'enfant. Lui parle beaucoup de dignité. Il la met comme la valeur fondamentale de la procréation, où il faut respecter la personne dans son unité, corps, âme, esprit. Mais en même temps, et puis d'être émerveillé du regard de l'enfant qui naît. Si on part sur la dignité, moi je réfléchis à ces propos qui ont été dits, c'est de savoir que pour d'autres, la dignité n'a pas le même sens. La dignité, pour d'autres, c'est l'idée que je m'en fais. Et si à partir de la même valeur, dignité, qui est un mot noble, on n'en tire pas tous la même conclusion.
Oui, c'est vrai, puisque pour les chrétiens, la dignité, c'est le fait d'être homme. Déjà, on est quelque part le visage de Dieu, on est le visage de Dieu, donc l'homme est intouchable.
Voilà, mais pour d'autres, la dignité, c'est l'idée que je m'en fais, et donc un enfant qui, par exemple, naîtrait anormal, considérant que c'est indigne, ne voudront pas garder cet enfant. Donc la dignité, voilà, pour dire à quel point les choses sont pas simples. Et je pense que dans tout ça, ce qu'on vient de toucher... On avait abordé cette fois-ci ou la fois précédente le fait que la médecine a fait des progrès, mais que finalement, ça devient plus compliqué pour les parents les futurs parents de gérer. Et effectivement, on tombe sur des questions qui sont complexes, qui continueront de se poser et que la médecine va encore faire des progrès. Et donc, on va se retrouver avec des questions encore plus importantes. Et que l'enjeu, d'après ce que j'ai compris à travers des personnes que j'ai rencontrées, que ce n'était pas seulement d'autoriser ou pas. Et si j'ai un peu de temps, je peux citer des paroles du Père Sainteau qui était venu à Chartres pour une soirée à propos des nouvelles lois de la bioéthique. Et pour lui, disait-il, la foi chrétienne, c'est une ressource et non une norme, que le don de Dieu est premier avant les normes. Il oblige, une fois qu'on a reçu l'amour, à agir à la manière du Christ. Et avec ça, ce n'était pas des normes à suivre, c'était pour chacun en conscience de réagir. Et le docteur Nissen, qui était venu, donc, quand on l'avait invité avec Mme Cato au niveau de la CI en juin, donc une théologienne moraliste, qui nous a dit que l'enseignement du magistère de l'Église catholique, donc magistère, le pape et les évêques, en morale générale, rappelle la primauté de l'amour de Dieu et du prochain, ainsi que l'obligation de toujours suivre sa conscience formée et éclairée, dit-elle. Et elle cite Luc 12:57, qui dit dans l'Évangile, « Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste ?» Donc c'est un appel à comprendre que les questions sont complexes et c'est une conscience éclairée qui choisit.
Et ce sera le mot de la fin. Pourquoi ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste ? Merci Françoise Michaud d'être venue nous éclairer sur ces questions de début de la vie. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.
Elle voulait qu'on se promène. Je devais lui faire la cour, mais pas l'amour, mais pas l'amour. Elle commençait un poème et s'enfuyait en pleurant. De loin me criait je t'aime. Dans le vent, oui, dans le vent. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique. Je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, je n'ai pas su le comprendre et je reste malheureux, malheureux. Dans le parc au point du jour, un cabriolet s'en va, il emporte mon amour, c'est mon amour qui s'en va. J'ai gardé ce mouchoir bleu, le souvenir d'un poème, et je marche malheureux. Que je l'aime, que je l'aime.
Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, je n'ai pas su le comprendre et je reste malheureux.